Après l'exposé très, très pertinent de Christian et les développements de Peter Burke, sur lesquels on aurait voulu faire tout le colloque, parce qu'au fond, on pouvait organiser tout le colloque à partir de votre exposé, Peter. Bon, vient le moment du divertissement, du délassement. Bon, je ne vais pas le cacher. Merci aux organisateurs de m'inviter à prendre la parole, mais c'est une prise de parole dont l'intitulé et le sous-titre Souvenir d'un pionnier du Far West laissent suffisamment entendre que cette prise de parole ne sera pas tout à fait, dans les deux sens du mot, académique. Ce sera un retour sur les circonstances qui ont présidé à la naissance du Centre d'histoire culturelle, des sociétés contemporaines, mais je vais l'appeler effectivement Centre d'histoire culturelle. À l'époque où on l'a créé, le problème des acronymes se posait moins, mais la difficulté a été très vite perçue. Je ne dis pas qu'il faudrait réfléchir à un nouveau mot, parce que je serais en train de creuser ma tombe, mais après tout, la question peut se poser.
Ça ne doit pas faciliter la tâche.
Voilà, oui, mais ça se mérite, hein, d'entrer dans ce centre. Alors, je vais en effet être conduit à dire je, ce qui place toujours le savant dans une position délicate, et ce faisant, je vais être parfois conduit à évoquer une conjoncture qui concerne plusieurs des personnes ici présentes, et au fond, plus indirectement, qui concerne chacun d'entre vous en tant qu'héritier de cette histoire des origines, puisque je vous considère collectivement, et pour simplifier, comme membre, associé, ami, affidé du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors cet essai d'égo-histoire évoquera cependant peu ma propre recherche, mais beaucoup la démarche, et disons le mot la stratégie. Je crois que l'histoire culturelle nous enseigne la stratégie, si on ne l'a pas de façon native. La stratégie que j'ai, alors je commence à dire je, désolé, que j'ai entrepris de mettre en place il y a un peu plus de 20 ans pour faire en sorte qu'une université nouvelle, premier point de mon exposé en quelque sorte, devienne le lieu d'accueil d'une discipline. Peter parlait peut-être plus justement de sous-discipline, mais enfin bon, voilà, on va dire discipline conventionnellement. Là aussi, il faudrait faire un colloque. Est-ce que c'est une discipline nouvelle. Donc, université nouvelle, discipline relativement nouvelle. L'université étant radicalement nouvelle, en 91, la discipline relativement nouvelle en 92, d'une certaine façon. Je reviendrai donc d'abord sur l'espace dont la délimitation, la fondation au sens romain du terme a permis cette expérience, dont votre réunion ce matin et les prochains jours, enfin, ou le prochain jour, prouve qu'elle se prolonge, cette réunion. Puis j'élargirai la perspective à un temps correspondant grossièrement aux années 1990, à la fin des années 80, au début des années 1990, où les conditions parurent, donc, il faut le reconnaître avec le recul, nous enregistrons ce phénomène en tant qu'historien, parurent réunies pour que s'affirmât sur le terrain universitaire français une histoire culturelle du contemporain. Donc, terrain universitaire, et pas autre chose, français, et pas anglais, américain, allemand, etc., et une histoire culturelle du contemporain. On voit donc à la fois l'ambition mais les limites de cette démarche, de l'époque et peut-être d'aujourd'hui. Et je me permettrai en conclusion de revenir sur quelques-unes seulement, des leçons que personnellement je tire de cette aventure, car aventure il y eut, avec ce que ce mot recèle d'inquiétude, mais surtout d'énergie et, disons-le, de jubilation. Alors, l'invention d'un lieu. J'empiète en partie sur ce qui a pu être dit l'année dernière au moment des cérémonies du 20e anniversaire de l'université. Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est ce que j'appellerais, je parle sous le contrôle de plusieurs spécialistes ici présents, dont Loïc Vadelorge, une université parisienne du troisième type. Après l'intramuros, après la génération des années 60, dont Nanterre, dont il sera beaucoup question dans mon exposé, avait été conçu et sera en effet considéré comme le fleuron, deuxième type, et deuxième type qui comprend, à mon avis, Dauphine, Orsay, et à laquelle j'adjoindrai personnellement Vincennes, mais ça on peut en discuter, Eh bien, l'essor de l'enseignement supérieur, croisé avec la politique d'aménagement concerté de la région parisienne, allait conduire les gouvernements des années 1980 à créer une deuxième couronne universitaire autour de la capitale, en corrélation avec les nouveaux pôles urbains identifiés à la fois à des chefs-lieux administratifs et ou à des villes nouvelles. Et comme son nom l'indique, Versailles-Saint-Quentin associait les deux identifications. Et disons-le tout net, il me semble, ça a déjà été évoqué par le président de cette université tout à l'heure, que de cette génération, donc troisième génération si on veut, cette génération d'université, c'est elle, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est partie sous les meilleurs auspices. J'en avais l'intuition à l'époque, je pense que c'est une intuition qui est plutôt confirmée maintenant. C'est un autre problème, je ne pense pas qu'on va en discuter tout à l'heure. Auspices sociologiques et économiques, assurément, mais auxquels on peut ajouter des auspices culturels, résumables en une simple formule. Le premier noyau de cette université fut ce qu'on appelait à l'époque une antenne, c'est toute une époque ça, les antennes, une antenne de l'université Paris 10 Nanterre. Paris 10 Nanterre qui était sans doute à cette époque à l'apogée de son rayonnement. Alors il faut avoir vécu cette époque assez exaltante, je ne le cacherai pas, où tout paraissait possible, et surtout où tout était, après vérification, possible, où les crédits, par comparaison avec les périodes antérieures, surtout ultérieures, ne manquaient pas. C'est l'époque du plan Université 2000, entre autres de Lionel Jospin. Nous sommes donc bien ici dans une université de l'an 2000. Quand on est à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, il faut penser que c'est une université de l'an 2000. Ça a été projeté comme ça. Université programmée pour le 21e siècle. Et où les bâtiments de briques et de verre sortaient de terre comme champignons. Littéralement comme champignons. Aussi par comparaison avec d'autres procédures beaucoup plus hasardeuses ou pénibles. Alors concrètement, ce cordon ombilical avec Nanterre signifiait que pour ce qui touchait aux sciences humaines et sociales, c'était l'université mère qui allait au départ choisir en son sein les pionniers. Dès cette époque, une métaphore religieuse, plus précisément monastique, m'avait saisi. Au Moyen-Âge, l'abbaye de Citeaux avait essaimé, parce que les cisterciens eux-mêmes, à l'époque, ont appelé ses filles, les filles de Citeaux. De même, Nanterre avait été, vers 1965, la fille de la Sorbonne. Le lien Nanterre-Sorbonne, qui a été vite oublié, n'est pas négligeable. Il faudra sans doute un jour y revenir. Et vers 1985, 20 ans plus tard, toujours 20 ans, Saint-Quentin devenait la fille de Nanterre. Alors, dans les deux cas, le monastique médiéval et l'universitaire contemporain, tout le sens de l'histoire allait signifier une rapide émancipation des filles par rapport à leur mère. Émancipation de Nanterre par rapport à la Sorbonne, inutile de vous faire un dessin. Mais la filiation demeure. Et l'on verra tout à l'heure qu'elle éclaire, à mon avis, le choix de l'histoire culturelle comme référence centrale du nouveau département d'histoire. Dans l'immédiat, voilà en tous les cas pourquoi c'est par mes collègues de Nanterre, où j'enseignais depuis une douzaine d'années, que je fus élu au printemps 1991 professeur d'histoire contemporaine auprès de l'antenne de Paris 10 Nanterre, sise à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour continuer dans les métaphores religieuses, rassurez-vous, je m'arrêterai là, enfin, faut-il se rassurer, je sais pas, je dirais qu'arrivant à la fin du printemps 91 sur ce terrain, à vrai dire de moi inconnu, bien que venant de Nanterre, pas si loin, mais quel abîme entre Nanterre et Saint-Quentin-en-Yvelines, qui était également à l'état de champignon à l'époque. J'ignorais, ce serait pour un septennaire, mais j'arrivais comme dans un pays de mission. Voilà, c'est comme ça que je l'ai intégré et vécu. Il s'agissait en effet pour le premier professeur élu sur une chaire d'histoire au sein de ce qui allait devenir dans quelques mois, ça on le savait, une université de plein exercice, le décret du 22 juillet 1991. Il s'agissait de créer de toutes pièces, là où existaient des enseignements d'histoire, un département d'histoire. Entendons par là un département d'enseignement. Alors j'insiste quand même sur ce point pendant 2 ou 3 minutes. La feuille de route, comme on dit beaucoup maintenant, qu'on ne disait pas du tout à l'époque, ne prévoyait aucun centre de recherche. bien entendu. La prudence encourageait à d'abord édifier un cursus d'enseignement supérieur complet, à l'époque à l'échelle de 4 années, car nous sommes avant l'uniformisation européenne autour de la périodisation 3-2-X du LMD. Après quoi, bah, on verrait bien. On ferait un bilan, on soupèserait dans des balances en toile d'araignée si le département avait les reins assez solides pour s'engager dans la préparation des concours, et on passerait peut-être à ce deuxième stade. Alors notons au passage que, plus encore qu'aujourd'hui, où cette culture continue à prédominer dans beaucoup de départements d'histoire, les concours en question étaient le point oméga du cursus proposé, et surtout leur préparation, pour certains collègues. En quelque sorte, le bâton de maréchal d'une carrière d'enseignant du supérieur. Préparer les concours, on ne précisait même pas enseignement, c'était tellement évident qu'il n'y avait que des concours d'enseignement au monde. Hein. On disait les concours, bon, on n'a même pas besoin de préciser. En ce qui me concerne, aussi loin que je remonte, je n'ai jamais été convaincu par ce raisonnement. À titre personnel, je continue à dire « je », désolé, j'ai fait partie des jurys du CAPES et surtout de l'agrégation. Les circonstances ont même fait que j'ai siégé contre les règles, 5 années de suite, généralement c'était 4 années maximum, 5 années de suite au jury de l'oral de ce concours, comme plus tard celui de l'entrée à l'école normale supérieure. Mais je n'ai jamais considéré que la fonction d'un département d'histoire était seulement de produire, disons même dans une formulation bourdivine de reproduire, des enseignants d'histoire à 100%. S'il ne fallait d'autres raisons, la raison culturaliste me suffirait pour rappeler aux enseignants tentés par le cocooning que si les départements d'histoire ne devaient, dans le monde d'aujourd'hui, 2012, produire que des profs d'histoire, il faudrait en supprimer la moitié. Hein? Bon. L'histoire culturelle enseigne, entre autres, que la formation historienne est une base très utile à la professionnalisation dans tous les secteurs déjà touchant à la production et à la médiation culturelle. Du patrimoine à la communication, le responsable de la communication de l'université qui est présent dans cette salle et qui nous interviewe me glissait dans le creux de l'oreille tout à l'heure qu'il avait une formation d'historien au départ, ce qui me paraît tellement évident, en passant par l'administration culturelle et plus généralement, au-delà de ces professions déjà nombreuses mais circonscrites, à l'accès à quantité d'autres activités professionnelles. Je pense d'ailleurs que le monde anglo-saxon est plus ouvert que nous encore sur ce principe d'une certaine façon, principe d'action. Alors précisons pour éviter toutes mes interprétations que je ne suis pas en train de dire que je n'en conclue pas qu'il faut donc arrêter pour la plupart des étudiants le cursus historien à la fin de la licence, par exemple. Bien au contraire, l'expérience de 2 années de recherche dans le cadre du master de recherche, et je dis du master de recherche, me paraît être capitale dans la formation d'un futur non-chercheur. D'un futur non-chercheur. Ça devrait presque être obligatoire. Pour ne pas faire de la recherche, obligation d'avoir un master de recherche. Bon. C'est une proposition de réforme, de plus, là. Voilà, c'est ça. Reste que si le maîtrisien de cette époque, le mastérien d'aujourd'hui, est l'espace de son travail, un chercheur au sens plein du terme, quelques-unes ici sans doute sont dans ce cas, bah, il n'en fera pas sa profession. Bon. Ça peut être un métier quelque part, mais pas sa profession. Les centres de recherche des universités se doivent, à mon sens, d'intégrer, et ne font pas toujours, les chercheurs débutants du master. Mais, c'est vrai, ils ne construisent leur légitimité à l'externe que sur les programmes individuels et surtout collectifs que prennent en charge les enseignants-chercheurs professionnels. On voit que dans une telle perspective, au début des années 1990, le passage au sein de Versailles-Saint-Quentin au stade de centre de recherche, au stade du centre de recherche, pouvait attendre encore un peu, peut-être même très longtemps, et qu'au fond, la solution la plus habile pouvait apparaître de continuer à œuvrer au sein d'équipes de recherche chevronnées situées hors de la jeune, petite et fragile UVSQ. Pour l'histoire, par exemple, à Nanterre, au premier chef. Alors si nous commémorons aujourd'hui le 20e anniversaire du Centre d'Histoire Culturelle, c'est la preuve qu'il a fallu et qu'on a réussi à mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. À titre personnel, élève, et je tiens à lui rendre hommage, je le ferai un peu plus dans quelques mois, dans le cadre d'une publication, élève de Jean Delumeau à Rennes, à la fin des années 60, puis de Marc Ferraud, à Paris, lecteur à ce même moment des maîtres de l'histoire, des mentalités, de la psychologie collective, de l'anthropologie historique, j'utilise des termes justement qu'eux-mêmes utilisaient, tels que Lucien Febvre, Alphonse Dupron, Robert Mandrou, j'avais défini mon champ de recherche jusqu'à la soutenance de la thèse de doctorat. Précisons, pour éviter les confusions, qu'il s'agissait de la thèse de doctorat d'État, rien à voir, de durée illimitée, donc comme celui des relations de la culture et de la politique, ou plutôt du culturel et du politique. Et que j'avais trouvé en René Raymond, professeur à l'Université Paris-Nanterre, mais surtout un temps important dans l'histoire de cette université, même dans l'histoire des universités françaises, président de l'Université de Nanterre. D'ailleurs, je renvoie à ceux qui s'intéressent à l'histoire des universités et à l'histoire de la science politique réunie à l'ouvrage de réflexion presque à chaud qu'il a publié après cette expérience présidentielle tout à fait intéressante, et l'ouvrage tout à fait intéressant. J'avais trouvé en René Raymond un directeur d'une grande élégance d'esprit et, en fait, d'une très grande libéralité épistémologique, ou d'un très grand libéralisme. Mon siège était donc fait, arrivant en terre de mission en 91. Il n'y avait pas à tarder plus. Et alors que l'ensemble de l'édifice, de la licence et de la maîtrise, mais d'abord de la licence, n'était pas encore terminé, passait sans transition, comme dirait l'autre, au stade du centre de recherche. C'est d'ailleurs en vertu de ce même principe d'action que, quelques temps après, je saisissais l'occasion qui passait devant nous de créer, à la surprise de certains responsables de l'université, ce que l'on appelait à l'époque un DEA, un diplôme d'études approfondies, qui était, je le précise aux plus jeunes, un stade intermédiaire entre la maîtrise et le doctorat, pour partie une école de futurs doctorants, mais pas seulement et pas complètement. Et ce DEA a été créé alors que nous n'avions même pas atteint le niveau de la maîtrise. Vous imaginez le paradoxe de la situation, côté équilibriste. Je pense que ce fut le seul cas d'un DEA créé dans ces conditions-là. Il faut dire que, c'est pour ça que je parle de stratégie, l'occasion se présentait d'une démarche en notre direction de l'école d'architecture de Versailles. Nous étions, pas pour rien, l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Parfois, on s'interroge pour savoir si ce n'est pas devenu l'université de Saint-Quentin-Versailles, c'est un vaste problème. Mais en tous les cas, il y avait, et il y a toujours, une école d'architecture qui était en train de passer au stade de la recherche, et qui se posait la question de savoir comment elle pouvait, d'une certaine façon, non seulement se légitimer au sein des écoles d'architecture, hein, là aussi stratégie, mais en même temps aider ces jeunes chercheurs, et c'est comme ça que nous avons fondé ce DEA. Quant au Centre d'histoire culturelle de 1992, il ne pouvait se fonder durablement que si, à la base, donc à Saint-Quentin même, il pouvait réunir plusieurs enseignants-chercheurs, recrutés, élus par ailleurs, j'aime pas tellement le mot recruté, on va dire donc élus, pour ensuite, au-delà des limites immédiates de l'université, être rejoint par des collègues venus d'autres horizons, mais heureux de trouver là, c'est-à-dire ici, là dans le temps, mais ici, aujourd'hui, un havre accueillant. Alors, sur le premier point, les collègues de Saint-Quentin-en-Yvelines, plusieurs sont présents dans cette salle, peut-être même tous ceux que je veux évoquer, sauf Jean-Yves Mollier, que je ne vois point, mais qui est présent parmi nous par l'esprit. Voilà, ça lui convient parfaitement. Il sera très content d'apprendre qu'il est présent par l'esprit. Je ne reviendrai pas ici, ce sera sur mon lit de mort, sur certains détails liés à certaines élections, où il a fallu que je combatte pour certains recrutements. Voilà. Ce sera très intéressant de nous raconter à ce moment-là. Oui, oui. En tous les cas, ma chance fut de pouvoir compter dès le début à mes côtés sur Jean-Yves Mollier, déjà reconnu dans le métier par ses premiers travaux sur le capitalisme d'édition, entre guillemets, et qui put bénéficier, dès la seconde année de l'existence de l'UVSQ, donc l'année de création du centre, de la création d'un second poste de professeur. C'est aussi dans cette perspective que 3 ans plus tard sera élu Jean-Claude Dion, au poste de maître de conférence, et c'est également dans ce cadre que se situe, ça me paraît quand même très important de le dire, je crois qu'elle est maintenant présente ce matin, la contribution de Marianne Matard, et en particulier à l'internationalisation de notre réflexion. En tous les cas, avec des piliers de cette qualité, tout devenait possible, d'autant plus que, et je dois lui rendre ici hommage, dès le début, nous avons eu la chance d'avoir auprès de nous Hélène Imbert, et qu'elle est toujours là. Alors, à partir de ce moment-là, il est clair que nous allions donner à l'acception d'histoire culturelle des déclinaisons diversifiées qui allaient essayer de prouver, ce que Christian a bien dit dans son exposé introductif de tout à l'heure, auquel je ne peux qu'adhérer à 100%, même plus, prouvait que nous étions un lieu pionnier, mais en particulier parce que nous allions encourager l'exploration de nouveaux champs. Et l'exploration, disons par là, que nous allions donner de faibles et symboliques, mais Dieu sait si pour un historien du culturel, le symbolique, ça compte, moyens, en particulier l'ouverture de séminaires, à des chercheurs qui travaillaient déjà en pionnier, mais qui avaient besoin de cette identification, de cette cadastration pour poursuivre. Et là, je ne citerai pas de nom, crainte en effet d'en oublier, mais il est clair que nous avons été le centre qui a permis à un certain nombre de problématiques, non pas, alors là pour le coup, de se créer, ce serait bouffon, même à l'échelle française, même à l'échelle de l'histoire du contemporain, mais de s'institutionnaliser, si peu que ce soit. Et nous sommes culturalistes, en particulier parce que nous savons que le rapport au social passe par quelque chose d'essentiel, qui est de l'ordre du politique, qui s'appelle l'institution. Et que sans le stade de l'institution, eh bien, les plus beaux projets périclitent. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, n'ont pas de réalité. La réalité, c'est l'institution. À supposer que la réalité existât, pour un culturaliste, ça s'appellerait l'institution. Le centre d'histoire culturelle, les séminaires, les colloques, c'était des manières d'institution. Et je pense que, je terminerai ce premier point là-dessus, que ce qui s'est fait après mon septennat, qui a été suivi par un autre septennat, si j'ai bien calculé, celui de Jean-Yves Mollier, a prolongé, a amplifié cette démarche. Et j'ai été très content, juste au moment où je partais, de pouvoir voir arriver au sein de ce centre d'histoire culturelle Loïc Vadelorge, qui donnait une dimension plus concrètement sociale et urbaine à nos questionnements, et à avoir le plaisir d'avoir comme successeur, parce que ça me satisfaisait parfaitement, Christian Delporte. Alors, comme je l'ai dit, mais fort heureusement, je serai plus court sur ce deuxième point, puisque Peter Burke a fait ça beaucoup plus brillamment que moi, cette dimension, en quelque sorte, spatiale, renvoie à une dimension temporelle, qui est que si l'histoire culturelle a été l'identification que je me suis permis de donner, mais on l'a compris, ça n'aurait pas eu de sens sans tous les autres qui participaient à ce mouvement, ben c'est parce que, vraisemblablement, cette génération, cette époque s'y prêtait, et en particulier à l'atterrissage, dirais-je, de l'histoire culturelle sur le terrain du contemporain. Pour comprendre... Alors, je vais être très clair, là, dans cette deuxième partie, je vais être très lucidement téléologique, hein, et je l'assume. Pour comprendre pourquoi ce fut l'histoire culturelle qui se retrouva éligible à ce moment-là à Saint-Quentin en Yvelines, donc je ne reviens pas sur ce qui pouvait expliquer le choix de Saint-Quentin en Yvelines, sauf, on le verra vers la fin, il faut pas seulement d'ailleurs tenir compte du choix fait donc, par un individu, ni même son renforcement par les élections successives, que j'ai parfois très clairement orientées. Mais il faut tenir compte surtout d'un surgissement historiographique. Et je ne pourrais pas entrer dans les détails, les subtilités de Peter, d'autant plus que conventionnellement je m'arrête en 1991, disons. Donc je renvoie à ses propres textes. En ce qui me concerne, je renvoie, pour la dernière version de ce que je vais résumer, un résumé de résumé de résumé, à ce que j'ai publié dans La culture comme aventure sous le titre « L'histoire culturelle a une histoire ». Alors, sous ce regard, les années de fondation du Centre d'histoire culturelle sont celles où cette discipline s'impose comme la formule unificatrice de recherche, de démarche, jusque-là dispersée, et pour ce qui concerne le Centre, appliqué donc aux contemporains. Alors, sans remonter au déluge, qui a nom Hérodote, mais je n'y reviens pas, ni au XVIIIe, XIXe siècle, qui a d'autres noms que Peter a cités tout à l'heure, enfin, quand même, replantons le décor après lui, Voltaire ou Herder, Guizot ou Burckhardt, je crois qu'on peut, sans remonter justement au déluge, ce qui n'est pas sans intérêt, ce qui est notre maladie professionnelle, mais qui peut dire peut-être parfois être plutôt un élément de confusion que d'éclaircissement, je crois qu'il faut, en revanche, repartir de l'école des annales. Oui, ça, c'est certain. Et de son choix de la formule d'histoire des mentalités, mais qui n'est pas un choix unique. Moi-même, j'ai eu tendance parfois, pour rapidement résumer cette histoire, à focaliser sur la notion d'histoire des mentalités, y compris sur un point que je ne saurais trop souligner, qui n'a pas été assez travaillé, à mon avis, y compris par moi-même, je l'ai évoqué comme ça, mais bon. Le lien entre le surgissement, je reprends le mot exprès, de la notion de mentalité après la Première Guerre mondiale, et le lien qu'il y a entre ce surgissement et la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, Lévi-Brull, auquel Lucien Febvre emprunte mentalité, explicitement, Lévi-Brull lui-même fait un lien implicite, lui, avec la guerre. Puisque Lévi-Brull dit clairement que dans un texte antérieur, je n'entre pas dans le détail, antérieur, mais antérieur à la guerre, il n'aurait pas pu utiliser mentalité ni primitif, qui n'était pas encore stabilisé. Et quand il écrit après la Première Guerre mondiale. Je suis bien obligé de me poser la question du rôle de la Première Guerre mondiale dans cette émergence, dans cette cristallisation sur mentalité, laissons primitive, et, enfin, laissons, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, et d'autre part, dans le fait que, ça, le lien a été plus explicitement fait a posteriori par Jacques Le Goff et d'autres, entre les rois thaumaturges, qui est un des premiers grands textes d'histoire culturelle, à mon avis, moderne, au XXe siècle français, en France, entre les rois thaumaturges de Marc Bloch et la Première Guerre mondiale aussi. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça. Mais je dois rappeler que, et Peter le rappelait tout à l'heure lui-même, que le terme de civilisation, donc l'hypothèse qu'on peut faire une histoire de la civilisation, n'est pas évacué. Donc ce vieux terme qui remonte au XVIIIe siècle, relayé par la Kulturgeschichte, tout ça, n'est pas mort. Il est sans doute moribond, mais n'est pas mort. Et d'ailleurs, Georges Duby et Robert Mandrou participent à une nouvelle édition d'un classique positiviste de l'histoire de la civilisation, dans les années 50, 60, 50. À la fin des années 50, à la demande de Lucien Febvre. Donc c'est quand même très intéressant d'être assez nominaliste pour se dire, mais hey, civilisation pas morte quand même. Et bien entendu, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez le sous-titre des annales, économie, société, civilisation. Tout le monde fait comme si le mot civilisation comptait pas. Quand on dit, oui, les annales prennent comme titre, après la guerre, annales, sous-titre, économie, société, civilisation. Ça pèse. Et il y aurait une micro-histoire de l'école des annales à refaire. Je l'avais un peu esquissé parce que sous cet angle-là, on ne la faisait pas, à savoir comment s'est-il fait que, au fond, soyons polémologiques, un instant, sans être polémique, Fernand Braudel l'a emporté successivement contre deux challengers, qui s'appelaient Charles Morazet et ensuite Robert Mandrou. Et dans le détail, c'est très intéressant de voir comment ça se passe, comment s'est fait le rapport de force, comment la victoire sur Morazet n'avait pas tout à fait la même signification que la victoire sur Robert Mandrou. Mais il faut avoir une lecture polémologique de cette situation. Donc, il y a mentalité, il y a civilisation, il y a aussi psychologie historique, j'y reviendrai rapidement dans un instant, et finalement, comme le disait Peter, est-ce que c'est de l'américanisation? À mon avis, c'est en tous les cas la reprise d'un vocabulaire anthropologique qui commençait à perfuser le milieu des historiens français sous l'effet de la découverte de la nouvelle anthropologie. Je maintiens que Lucien Febvre et ses camarades utilisent mentalité parce que ça leur est proposé sur un plateau par l'anthropologie de l'époque, qui s'appelle d'ailleurs l'ethnologie, Lévi-Brull. Une génération et demie, une génération après, à l'époque de Lévi-Strauss et d'autres, le terme culture leur est apporté en quelque sorte sur un plateau. Je pense qu'il y a des liens, mais c'est mon hypothèse, en tout cas pour la France, hein, bien entendu, puisque dans cette génération-là, vous avez quelques anthropologues français, Lévi-Strauss en particulier, mais pas seulement, qui joue un rôle de passeur ou de provocateur, au sens neutre, à la limite positif du terme. Bien évidemment, ce n'est pas ici que je veux reprendre la question de la faiblesse théorique des termes de civilisation ou de mentalité, puisqu'on peut nous retourner la formule pour culture. Ce qui m'intéresse en tant qu'historien, observant les rapports de force en particulier, c'est que la fragilité de civilisation ou de mentalité s'est révélée plus grande que celle de culture, puisque c'est culture qui l'a emportée. Peut-être pour une ou deux générations, mais that's life. Hein. Bon. L'autre faiblesse, on le sait, de la perspective analyste, c'était son économisme implicite. Du moins, chez ceux qui l'emportaient dans le rapport de force. Je ne dis pas que c'était brodélien, mais ça pouvait se retrouver chez d'autres, chez Pierre Chaunu, plus clairement encore. Le troisième niveau, c'est-à-dire la culture, c'était le troisième niveau. Ce qui voulait dire que nous allions de bottom-up et que le, dans le bottom, il y avait effectivement l'économique. Alors, de la cave au grenier, c'est vrai que Michel Vauvel, arrivant après, et dans une sorte de lecture critique du marxisme, et j'y reviendrai un instant, ça concerne entre autres certainement Jean-Yves Meulier, c'est-à-dire que la prise de distance par rapport aux hypothèses marxistes a conduit à l'histoire culturelle, cultural studies, ça, c'est tout à fait clair du côté de Birmingham, mais on peut retrouver ça chez Vauvel, mais en revanche, si de la cave au grenier chez Vauvel, ça peut s'interpréter de façon variée, d'abord, est-ce que la cave est plus importante que le grenier? Et puis, qu'est-ce qu'on met dans le grenier? Est-ce que c'est le culturel? Bon. En revanche, le troisième niveau de Chaunu et de quelques autres, c'était clairement hiérarchique. Hein. Bien entendu, il fallait d'abord explorer l'économique, remonter vers le social, dont on savait à l'époque ce qu'il voulait dire. Parce qu'entre parenthèses, en ce qui concerne le flou, l'incertitude et la contradiction, c'est le social qui est recordman, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que l'histoire sociale? Qu'est-ce que c'est que le social? Qu'est-ce que c'est que la société? Et on arrivait enfin, cerise sur le gâteau, au niveau culturel, c'est-à-dire qu'on était tellement fatigué d'avoir établi d'abord les rapports fonciers, par exemple, l'histoire de la rente foncière, et éventuellement les rapports dits sociaux qui étaient en fait fondés sur des catégories artefacts toutes faites, à savoir qu'il y aurait des paysans, des classes moyennes, des classes dirigeantes, vaste problème, que quand on arrivait au troisième niveau, on était trop fatigué et on le torchait en dix pages. Je caricature un peu, mais c'était la logique de ce genre de lecture. D'où, à mon sens, le caractère en tous les cas significatif de l'émergence en France, donc je répète en France, hein, histoire autonome à l'époque, pas encore global de cette historiographie, du terme d'histoire culturelle. Puisque je rappelle que moi, personnellement, je le situe surtout à partir du texte de Georges Duby de 1969. Donc j'avais fait une micro-analyse, je le rappelle, enfin ça je renvoie à des textes antérieurs. Un texte court, mais qui s'appelle « Histoire culturelle », dans la revue de l'enseignement supérieur de 69, dernier numéro, car il ne peut plus y avoir de revue de l'enseignement supérieur après. Numéro prêt depuis avant mai 68, texte de Duby, numéro coordonné par Robert Mandrou, texte de Duby daté d'avril 68. À mon avis, quand Duby signe avril 68 pour un texte qui part en 69, il sait très bien ce qu'il fait, il veut dire « Avant le déluge, j'ai écrit ça, mais maintenant peut-être que c'est un peu obsolète. » En tout cas, ce qui est obsolète, c'est qu'il n'y a plus de revue d'enseignement supérieur après. Donc c'est une sorte de ouais, bon, passons. En tous les cas, une hirondelle n'a pas fait le printemps, mais je trouve significatif que le terme soit relancé à cette occasion, puisqu'on pourrait lui trouver quelques antériorités, même en langue française, fortiori dans le domaine anglo-saxon, puisque l'ébauche de réflexion sur cultural history est déjà perceptible au sein des universitaires américains avant la Seconde Guerre mondiale. Même la formule est lancée, et après tout, c'est 5 ans plus tard que sort le manuel de Maurice Crubelier, etc. Donc, le mouvement s'amorce, Paul Gerbaud, etc. D'autre part, c'est une réflexion qui vient au départ, plutôt de l'histoire médiévale, de l'histoire dite moderne au sens français du terme, je reviendrai un instant sur Robert Mandrou. Et ce qui frappe, c'est que lorsque on considère le terrain du contemporain, c'est là que les contemporanistes brillent par leur timidité ou leur manque d'intérêt pour cette perspective. J'ai cité Maurice Crubelier ou Paul Gerbaud, ce qui me frappe, c'est la solitude dans laquelle ils ont œuvré et publié. Mais les deux ont quelques liens avec Nanterre, ce qui n'est quand même pas négligeable. Pour mémoire, je signale que, bien entendu, les Français de l'époque auraient pu prendre beaucoup de leçons des cultural studies qui, à l'époque, étaient britanniques. On sait bien que dans l'histoire des cultural studies, il y a quelque chose de passionnant dans le passage, la traversée de l'Atlantique. Et comment le même terme cultural studies a forcément, tous les culturalistes pouvaient le prédire, a changé profondément de nature en passant de Birmingham à la Californie, disons, pour simplifier. En tous les cas, du côté français, d'une certaine façon, si une hirondelle n'a pas fait le printemps, appliquée aux contemporains, c'est de là où on ne l'attendait pas, sans doute, que l'histoire culturelle a vraiment connu son coup de pouce décisif, c'est-à-dire du côté de l'histoire politique. Donc il faudrait peut-être s'interroger maintenant, personnellement, je ne l'ai pas tellement fait, je l'avoue, sur ce qui pouvait faire que l'histoire politique, après 68 quand même, après tout, etc., se saisissait de ce concept de culture, soit explicitement, soit implicitement, pour renouveler ses grilles de lecture. Indépendamment de 68, et je crois que c'est Peter qui l'a évoqué, hein, tous les cas, nous sommes tous d'accord là-dessus, puisque la question, une fois que l'on a fait pour la énième fois l'histoire de l'histoire culturelle, c'est de s'interroger évidemment sur ce qui peut avoir déterminé, sans être excessivement déterministe, ces mouvements. Je pense que la crise de la grille de lecture économiste, et en particulier marxiste, y a joué tout à fait un rôle. C'est déjà important dans la démarche des cultural studies britanniques. En France, ça va se retrouver, par exemple, dans l'itinéraire de Maurice Agulon. Et là, vous avez un pôle qui n'est pas négligeable, qui est celui de la Sorbonne, qui va être peu à peu la Sorbonne parisien après 68. Une histoire d'essentialité, une histoire de la symbolique chez Maurice Agulon, qui, évidemment, ouvre un large champ, une large carrière aux chercheurs qui vont le suivre. Quel est le rôle que va jouer dans tout ça Nanterre? Eh bien, justement, ce qui me paraît intéressant, c'est de constater qu'il se constitue dans les années 70-80 une sorte d'école nanterroise de l'histoire culturelle. Je ne citerai que trois noms, mais d'autres pourraient leur être ajoutés. Jean-Pierre Rioux, Jean-François Cirinelli et moi-même, liés à René Raymond, lui-même, dans sa génération, l'aîné de Maurice Crubelier et de Paul Gerbaud. Donc là, il y a une cohérence qui se constitue avec une acception ouverte de l'histoire politique, ouverte dans le sens de ce qui, dans l'esprit, disons, de René Raymond, était sans doute celui de l'histoire intellectuelle. Là aussi, il faudrait reconstituer les liens entre une histoire intellectuelle qui se remet en cause et l'histoire culturelle, mais qui ici converge avec l'histoire politique. En tous les cas, de là sortiront, entre autres, pour simplifier, parce que c'est ça qui nous fait atterrir sur Versailles 51-Yvelines, la première thèse de doctorat sur l'histoire des sociabilités intellectuelles dans la France contemporaine de Jean-François Cirinelli, et la première thèse sur l'histoire des politiques et institutions culturelles dans la France contemporaine de Pascal Horry. Symboliquement, c'est à la demande de René Raymond, parce que c'était un travail de commande, que, à deux mains, Pascal Horry et Jean-François Cirinelli ont écrit un livre sur les intellectuels, figure qui est évidemment au croisement du culturel et du politique, tel qu'on l'a défini Jean-François et moi, à savoir l'intellectuel compris dans un sens restreint, j'allais dire à la française, mais en assumant le fait que cette modélisation française n'est pas un cocorico, mais simplement le constat d'une forme de référence à un moment donné de l'histoire, une figure qui trouve sa légitimité sur le terrain du culturel, mais qui prend tout son sens parce qu'elle transfère cette légitimité sur le terrain du politique. Et je dis ça en simplifiant, parce que ces catégories, bien entendu, ce sont des catégories simplificatrices. Vraisemblablement, contrairement à ce qu'on pense, le travail du savant, c'est plutôt de simplifier que de complexifier. Et donc, je viens de dire culturel et politique, on va me dire, ouais, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Bon, nous avons proposé, Jean-François et moi, cette définition, et nous y tenons, sans doute jusqu'à notre mort. La particularité de cette école nanterroise éphémère de l'histoire culturelle du contemporain, donc désormais, c'est d'avoir aussi précocement cherché à théoriser cette pratique. Théoriser avec les moyens du bord, c'est-à-dire de l'époque et de leur âge. En ce qui me concerne, c'est dans, je tiens à le préciser, puisque on comprend maintenant le lien avec 50 ans d'Yvelines, c'est dans le bulletin du Centre d'histoire de la France contemporaine de Nanterre qu'est paru mon premier texte, sauf erreur, en 81, épistémologique sur le sujet. Et puis, je voudrais dire, puisque j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, qu'il faudrait retravailler sur l'empreinte de Robert Mandrou dans tout ça. Puisque Robert Mandrou, qui avait été l'un des espoirs de l'École des Annales, cadet de Fernand Braudel, mais personnalité importante et irradiante au sein de l'équipe, très proche du dernier Lucien Febvre, très très proche du dernier Lucien Febvre, d'où dimension freudienne, bien entendu. Robert Mandrou, qui, après avoir été d'une certaine façon expulsé du sein, sinon de l'école des hautes études en sciences sociales, du moins de l'école des annales, au sens restreint du terme, de la revue des annales, c'est Robert Mandrou qui s'est retrouvé à Nanterre. Le Robert Mandrou qui, en y arrivant, était déjà l'auteur de la fameuse introduction à la France moderne, 1961, sous-titré « Essai de psychologie historique », Bon, la réédition que je vous recommande en 1998 s'est accompagnée d'un certain nombre de gloses, en particulier d'un ancien collègue de Nanterre, Jean Lecuire, qui était très lié à Robert Mandrou et qui détricote évidemment la fameuse affaire de la rupture entre Brodel et Mandrou. Et c'est le Mandrou de Magistrat et Sorcier, autre essai de psychologie historique, qui arrive à Nanterre en 68. À Nanterre en 68 arrive Robert Mandrou avec Magistrat et Sorcier, entre autres. Il y a donc une autre lecture de Nanterre 68. On voit donc que se reconfigure le lien entre Nanterre et Saint-Quentin-en-Yvelines à travers un certain nombre de convergences, parce que j'aurais aimé avoir son témoignage, mais je pense que Jean-Yves Mollier se situera dans une continuité par rapport à Maurice Agulon, qui était déjà extrêmement productive. Cette continuité va être manifestée à Paris 1 par la succession Maurice Agulon-Alain Corbin, qui est à la fois logique et en même temps dont on voit bien le pas de côté que ça représente sur beaucoup de plans, mais il y a une logique profonde. Bon, peut-être qu'il y a une logique à ce que je me sois retrouvé à Paris 1, après tout, ensuite. Et puis, la filiation entre cette école nanterroise et le centre d'histoire culturelle de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. En conclusion, je voudrais tirer quelques leçons de cette, je maintiens le mot, aventure. Un aventurier, vous voyez, bon, assez propre sur lui. Hein. Alors, toutes les leçons ne sont pas forcément positives. Je me rappelle une formule, je n'ai pas eu le temps de vérifier qui en était l'auteur, mais certains d'entre vous, spécialistes d'histoire politique, me le diront peut-être tout de suite. La formule d'un militant de l'autogestion des années d'avant et d'après 68, qui avait publié un livre, « L'autogestion, c'est pas de la tarte ». Bon. Alors, à l'UVSQ comme ailleurs, la transpériodicité, honnêtement, pendant 2 ou 3 ans, j'étais le maître du monde. Allez, je continue à dire « je ». Donc, c'est vrai que le choix des collègues dans les autres périodes était quand même très déterminé par les hypothèses que je faisais sur leur capacité à dialoguer avec l'histoire culturelle du contemporain. Donc la transpériodicité, c'est pas de la tarte. La transdisciplinarité, c'est pas de la tarte. Mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, de réussir, pour persévérer, etc. Ceci posé, leçon à retirer de ces difficultés, de toutes les façons, la qualité intellectuelle d'un projet universitaire ne suffit pas, il faut l'institutionnaliser et il faut créer des alliances entre institutions. On n'y échappera pas. J'ai noté avec intérêt, parce que ça me paraît aller dans la bonne direction, je ne sais pas quelle est cette direction, mais en tous les cas, c'est un signe parmi d'autres. J'ai noté avec intérêt des mots comme Institut d'études culturelles ou Patrima. Là, vraiment, on va dans la bonne direction, stratégiquement parlant. Deuxième remarque destinée à nuancer les leçons dans leur positivité, le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, a souffert dès le début. Continuera-t-il à souffrir? Peut-être pas si, justement, cet autre interlocuteur continue à s'affaiblir, mais du centralisme français, et en particulier parisien. La démarche des collègues acceptant de voir ouvrir un séminaire dans le cadre du centre, mais souhaitant d'emblée, au bout de quelques années, que le dit séminaire se tienne à l'intérieur du périphérique et pas à l'extérieur du périphérique. Et j'avais noté le moment où ça se produisait. Je m'en doutais. Je savais bien que progressivement, des séminaires qui étaient rattachés institutionnellement à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines allaient se tenir intramuros, enfin l'autre intramuros, et non dans ce lointain Far West, était un signe pas très grave, bien entendu, mais intéressant à observer sur le terrain, c'est le cas de le dire. Bon, ce qui compte, au final, c'est bien sûr la qualité du travail abattu et le rattachement institutionnel, ce qui me paraît important, le rattachement institutionnel, quelle que soit la géographie de tout ça. Mais enfin, un jour, il faudra s'interroger sur ces dimensions géographiques. Il y a effectivement une géographie culturelle et une géographie du culturel et de l'histoire culturelle à faire. Disons-le clairement, il reste aussi une dernière fragilité, mais d'une certaine façon, les 20 années qui se sont déroulées, ou je dirais les 12 années depuis mon, les 13 années depuis mon départ, tout cela m'a rassuré. Mais je voudrais le dire, puisque c'est l'occasion de tout se dire, je ne dirais évidemment pas tout, sauf même sous la torture, quand j'ai été élu signe de fragilité, au moins en 98, de du centre d'histoire culturelle et de l'université derrière, quand j'ai été élu à la Sorbonne Paris 1, j'ai senti une certaine inquiétude au sein de l'équipe. J'en ai des preuves très précises à l'esprit en ce moment. N'allais-je pas emporter avec moi, sur mon dos, le centre d'histoire culturelle ? Hein, vous voyez, un petit escargot, là, ou plutôt un Bernard l'Ermite, à l'instar d'une vulgaire marque. Alors, j'ai été surpris de cette inquiétude, parce qu'à aucun moment, ne dois-je le dire, il m'avait effleuré que le centre ne resta pas à Saint-Quentin. Bon, voilà. Je l'avais créé, je lui avais donné une certaine forme, qui correspondait à la conception que je me faisais d'un centre de recherche, mais je n'en étais pas propriétaire, évidemment. J'avais vu quelques contre-exemples, ou contre-exemples, qui m'avaient choqué. Hein. Peut-être que le CRHQ de Caen, par exemple, à une certaine époque, était la propriété d'un patron, etc. Alors je ne souhaitais pas reproduire ce schéma-là. Je n'allais pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, et d'autant plus que Pierre avait besoin de ce lieu pour affirmer son identité scientifique. Mais inutile de se le cacher, les universités françaises les plus récentes, même relativement les plus récentes, même celles qui ont 20 ans, le bel âge, etc., enfin pas pour Paul Nizan, mais bon. D'ailleurs, le phénomène existe dans la plupart des autres pays, voire dans tous, souffrent d'un déficit de légitimité hein, par rapport aux plus anciennes. Elles ne s'en sortent que si elles développent des programmes d'excellence sur un certain nombre de points précis. Programmes qui leur permettent d'attirer à elles des étudiants, des chercheurs et des crédits. Crédit, dans tous les sens du mot crédit. C'est bien entendu un choix qu'on pourrait qualifier d'élitiste, mais je l'assume. Il n'est pas contradictoire avec le projet de popularisation à l'origine des universités du troisième type, mais qui suppose des arbitrages de la part des instances dirigeantes des universités en question. Je pense qu'ici, à Saint-Quentin, les dites instances sont conscientes du trésor dont elles disposent avec le Centre d'histoire culturelle, puisqu'aussi bien aucun autre centre d'histoire culturelle ne s'est créé à l'échelle de la région parisienne et ayant de surcroît l'objet, pour objet l'histoire culturelle du contemporain, il ne s'en est créé aucun, et en particulier il ne s'en est créé aucun à la Sorbonne Paris 1. Et personnellement, je ne souhaitais absolument pas créer un centre d'histoire culturelle à Sorbonne Paris 1, puisqu'il existait à Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Deuxième et pour finir, ensemble de remarques plus positives, l'essentiel est de toute façon ailleurs. Ce retour sur les années 90 n'est pas pour moi nostalgique et encore moins décliniste, comme vous le voyez. C'est au contraire, peut-être la leçon inverse que j'en retire. C'est un exemple, pour sinon un modèle, de ce que permet la jeunesse, alors une jeune université, c'est exaltant, de jeunes enseignants, de jeunes chercheurs. Aujourd'hui, il me semble que l'UVSQ reste jeune, y compris dans ce qui pourrait être parfois sa fragilité, c'est un signe de sa jeunesse. Et d'ailleurs, un des signes de tout ça, c'est que ce colloque, et c'est toute la métaphore aussi de l'histoire encore récente, encore courte de cette université, commence au théâtre Montansier à Versailles et se poursuit salle Léo Ferré de la médiathèque du Canal. Alors, Éric Rohmer aurait fait un film extraordinaire sur ça, parce que ça dit tellement de choses. Bon. Et vos sourires prouvent que c'est même pas la peine que je vous explique. Vous êtes assez culturaliste pour comprendre en 10 secondes. Donc, ça reste une université problématique, d'une certaine façon. Jeune, qui a encore à préciser son identité, c'est très bien. C'est très bien. C'est la preuve qu'elle n'est pas, en quelque sorte... congelée, racornie, quelle que soit la métaphore qu'on utilise, comme d'autres le sont peut-être, d'ailleurs. Et puis démographiquement, puisque je parle de jeunesse, de toutes les façons, donc il y a la jeunesse d'université, il y a la jeunesse des enseignants et des chercheurs. Vous me direz, bah oui, mais regardez vos cheveux blancs. D'accord, mais cette génération s'efface. Et je ne pense pas que nous soyons en train, je parle ici aux plus jeunes, en train de vous montrer à quel point nous avons été supérieurs à vous, pas du tout. J'espère que vous serez comme les nains sur les épaules de géants, mais nous ne sommes pas des géants, bien sûr, qu'on voit sur les vitraux de la cathédrale de Chartres. Bon. Fameuse métaphore médiévale, là aussi. Toujours est-il que je me suis permis de dire « je » jusqu'à cette dernière minute, ben, c'est pas parce que la première personne du singulier, ça voulait dire que j'étais une personne première. Si j'ai dit « je », c'est parce que pour que ça ait duré 7 ans et maintenant 20 ans, et j'espère 1000 ans, n'est-ce pas, président, le président, 1000 ans pour le président Delporte, c'est que...
Tu m'en as
c'est que 7 ans après donc, sa création, ben, ce « je » n'avait de sens que parce que c'était devenu un « nous ». Il est évident que sinon, ça n'aurait pas duré 7 ans. Ça n'aurait même pas duré 3 ans, ça n'aurait pas duré 20 ans, ni 1000 ans. Donc ce « nous » est présent ce matin, donc je voudrais vous remercier d'avoir été là et d'y être toujours.